Rectangle.
Avec le soutien de Sabam for Culture.
Bonjour, vous êtes sur Radio Rectangle, Benjamin Scos dans La Vie Rectangulaire, le podcast dédié à une invitée aujourd'hui. Bonjour Marine. Donc toi tu es autrice, illustratrice donc.
C'est ça, oui.
On va un peu retracer ton parcours. Moi j'ai découvert évidemment ce que tu fais par le biais de ce qui est le plus visible pour le moment dans, dans ton œuvre, qui est l'illustration pour enfants.
Oui, et de quel livre tu te souviens?
C'était le Calac des ours.
Il y a beaucoup d'ours dans le livre. Mais peut-être que c'était Hiro du coup, ou alors L'ours Kintsugi avec
oui,
Victor
voilà.
Lechangy. Ouais. Alors là j'étais juste illustratrice et pour Hiro j'ai aussi fait le texte.
Ok. Ouais. Donc comment est-ce que ça se passe? Quel est un peu ton parcours? Retraçons ça.
Ouais, j'ai pas un parcours très très linéaire, mais j'ai commencé quand j'étais toute jeune par faire des études de graphisme qui m'ont vite lassée. Je suis pas du tout graphiste en fait moi.
Que tu n'aimais pas là-dedans.
L'ordinateur, j'en voudrais tout. Il y a rien que j'aime dans le graphisme. Je sais pas. En fait, j'ai fait ces études-là parce que quand j'ai dû choisir à 18 ans, je savais que je voulais faire de l'art, mais faire de l'illustration, pourtant qui était ma passion depuis des années, ça faisait peur parce que qu'est-ce qu'on fait quand on est illustratrice quoi.
Comment est-ce qu'on gagne sa vie?
Ouais, moi je pensais que je publierais jamais de livres, que c'était vraiment très très difficile. Et du coup, je me suis dit, graphisme, ça me paraît être une option plus safe, quoi. Et donc, j'ai commencé ces études de graphisme. Et puis après 6 mois, je les ai arrêtées. Je suis partie à l'étranger pendant 3 ans. Et en revenant, je me suis dit, en fait, moi, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est de l'illustration, quoi. Donc, j'ai été à Gand, à Saint-Lucas, à Gand, faire 3 ans d'illustration.
Et pendant ces 3 ans que tu as coupé avec le graphisme, ça t'a inspiré? C'était une période où tu dessinais ou tu...
Ça m'a transformé, quoi. Vraiment, ça m'a fait prendre conscience de ce que je voulais faire dans ma vie, de qui je voulais être. Enfin, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de choses et je me suis vraiment sentie prête. Enfin, j'avais vraiment besoin de ça. Puis de voir d'autres choses aussi. J'étais au Colorado, aux États-Unis.
Ah oui,
donc,
pas mal quand même.
C'était vraiment complètement différent de tout ce que j'avais pu voir avant. J'étais seule aussi, j'ai été là-bas toute seule, j'étais fille au père en fait. Et donc j'ai été confrontée à moi-même et j'ai vraiment découvert ce que j'aimais et ce que je voulais faire. Et donc j'étais prête quoi, à faire mes études. Et donc je les ai commencées vraiment en ayant pour objectif de faire de l'illustration comme job quoi. Mm-hmm. C'est pas, voilà.
Donc plus graphisme mais illustrateur.
Voilà.
Rassurer, on va oui. Bosser dans...
Oui, donc ils n'étaient pas très très portés jeunesse, quoi. C'était plutôt BD, roman graphique. Je ne sais pas si tu connais Brecht Evans, par exemple, qui est un auteur de BD flamand extrêmement connu. Bah, c'était son école, et donc c'était un peu... Et moi, je faisais pas de BD. Enfin, en fait, moi, je faisais de l'illu, et puis ça se mettait dans un genre ou pas, enfin, dans un cadre ou pas. Je faisais juste ce que je fais naturellement, et voilà. Par contre, quand je suis sortie de mes études, là, je suis repartie à l'étranger. J'ai fait des résidences pendant 2 ans. Et puis,
par résidence, tu veux dire quoi si tu pars, pour les auditeurs qui ne savent pas, quelques mois,
ouais,
pour faire quelque chose, ça, créer une œuvre ou...
En tout cas, je suis partie plusieurs fois en Norvège, en Corée, j'étais en Islande aussi, c'était chaque fois au moins un mois, dans un lieu en fait, où je me consacre à 1000% à la création quoi, d'un projet. Alors généralement, je vais avec un projet, mais je ne finis pas le projet là-bas. Généralement, moi, j'aime bien commencer un projet en résidence parce qu'en fait, on a tellement de temps, il n'y a aucune distraction. Surtout que moi, j'aime bien aller dans des endroits complètement isolés. Donc, je ne suis pas dans des villes, je suis généralement
en pleine nature.
Voilà.
Pour commencer vraiment à se plonger dans un projet.
Avoir un atelier mis à disposition et puis être entouré aussi d'autres résidents, c'est chouette aussi, qui font généralement pas du tout la même chose que moi. Enfin, j'ai jamais rencontré d'autres illustrateurs en résidence. C'est super inspirant quoi, d'avoir le temps, l'espace mental, enfin tout, j'adore. Et donc j'ai fait ça et puis après je me suis dit j'ai quand même envie, en fait j'avais très très envie d'étudier, de faire un master en fait, parce que j'avais envie d'étudier avec une certaine prof qui s'appelle Hule de Wankel, qui est une... illustratrice, elle n'est pas autrice, elle est illustratrice de livres illustrés, parce qu'elle fait de la jeunesse, mais c'est très très très, enfin au sens très large jeunesse. Et donc pour étudier avec elle, j'ai refait un master, et puis voilà, en 2018 j'ai eu fini.
Donc il y a deux sources de travail, il y a la dessinatrice, on va dire l'illustratrice, et l'autrice, c'est comme ça qu'on dit, je ne sais plus.
Maintenant on dit autrice.
Autrice, ouais. J'ai un peu toujours du mal avec le...
Oui, c'est vrai que c'est bizarre, on s'habitue.
Enfin, c'est le mot, on s'habitue vite, voilà. Autrice, ça c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que d'abord tu commences par... comment est-ce que tu abordes ces deux facettes-là? Parce que parfois, j'imagine, professionnellement, on te demande d'illustrer, mais tu n'es pas l'autrice.
Alors, on me demande souvent d'illustrer. Alors, je choisis le texte, en fait. Enfin, je lis le texte, et évidemment, c'est aussi une question de temps, simplement, parce que moi, j'ai énormément de projets, j'ai énormément d'histoires que j'ai envie de raconter, aussi d'écrire. Et donc, quand on me contacte pour illustrer un texte, si le texte me parle à fond, que je vois tout de suite les images dans ma tête, j'accepte. Mais c'est un travail complètement différent parce qu'en effet, le texte est déjà là. C'est pas du tout pareil parce que même pour y travailler, le texte est là. Donc les images, si j'accepte ce texte, c'est parce qu'il me parle et donc j'ai tout de suite les images qui lui viennent en tête. Et donc ça va assez, c'est assez organique, ça vient assez facilement. Je fais un découpage en fait, donc je dessine des petits croquis pour tout le livre. Et puis après, je fais les images finales, mais j'ai moins cette sensation de me plonger dans un univers. Enfin, si, je m'y plonge, mais c'est pas vraiment mon univers à 100%. Et donc, je suis plus fidèle à la trame du texte, évidemment, même si moi, quand je suis juste illustratrice, ce que j'adore plus que tout, c'est de raconter des histoires, que ce soit avec des mots ou avec des images. Et donc, quand je dessine, je raconte aussi mes propres histoires qui sont parfois... qui s'ajoutent au texte de l'auteur, quoi. Donc... Ça, c'est quand je travaille avec un texte que je reçois, ou alors, ce qui se passe aussi, bah, quand je fais les deux, c'est complètement... En fait, c'est dur parce que tout est possible, on peut tout raconter. Surtout que moi, j'ai eu quand même de la chance. On m'a souvent dit, raconte ce que tu veux, quoi. Et quand on peut raconter tout ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut raconter? C'est hyper dur de savoir choisir et de savoir vraiment faire le tri dans les idées. Et donc là, le texte et l'image naissent généralement ensemble. J'écris pas le texte et puis je l'illustre. Ça naît de façon. Enfin, c'est vraiment un mélange comme ça qui se crée. Je reviens souvent sur le texte après avoir eu une image qui m'est venue dans la tête ou que j'ai dit que j'avais envie de dessiner. Encore une fois, une envie de dessin qui fait que je vais écrire un certain passage du livre. L'histoire prend peut-être un tournant différent en fonction de ce que j'ai envie de dessiner ou ce que je dessine un peu par hasard et puis finalement qui va nourrir le texte. Enfin, c'est un peu un écho comme ça qui se fait, qui est super chouette. Et là, vraiment, pour le coup, je nage dans mon univers à 1000%, quoi. Je m'y perds et j'adore. Enfin, vraiment, j'adore. Je pense que si je devais décider, bon, ça dépend des moments, parce que quand je fais un livre toute seule, donc que j'écris et que j'illustre, à la fin, c'est souvent... Enfin, c'est tellement d'énergie parce que je mets tellement de moi que je suis contente de faire quelque chose d'autre et d'illustrer le texte de quelqu'un d'autre parce que du coup, je trouve que c'est un peu plus facile, même si en fait, facile n'est peut-être pas le mot, mais c'est différent et donc, voilà.
Et comment est-ce que ça se passe? C'est-à-dire, tu as un éditeur qui te contacte avec, et tu dois lui... Ou tu lui montres quoi alors? Je veux dire, vu que tu travailles tout en même temps, tu dois lui faire un canevas, quand même, expliquer ce que c'est ou c'est une commande, parfois une idée qu'on te dit, il faudrait faire ça, et toi, tu vas construire. Comment est-ce que ça se passe, ça, ce rapport pour être publié, je veux dire, dans ton cas?
Alors, mon premier livre, c'est Versant Sud, qui m'a contacté, qui est un éditeur bruxellois, qui m'a contacté pour faire un livre. Et là, ils m'ont demandé vraiment d'écrire le texte alors que je ne l'avais jamais fait. Donc, ils m'ont dit, tu fais tout. Et tu es complètement libre, à part que le livre doit s'inscrire dans une collection qui s'appelle Les Pétoches. Donc ça doit parler de la peur, mais au sens extrêmement large du terme. Et donc, c'était très libre, mais il y avait quand même cette trame d'une histoire qui aborde le thème de la peur. Et donc c'est là où j'ai fait Hiro, enfin j'ai proposé Hiro. Et pour Hiro, donc c'est l'histoire en fait d'un ours qui n'a pas envie d'hiberner, qui n'arrive pas, c'est une ours en fait, et tous ses frères ronflent et dorment profondément, et elle se tourne, elle n'arrive vraiment pas à dormir, en fait ça l'intéresse pas quoi, elle a envie de voir ce qui se passe à l'extérieur, et donc elle décide de prendre ses affaires et d'aller explorer la neige et l'hiver, et puis elle rencontre, enfin je vais pas tout raconter parce que sinon ça...
Oui, c'est mais... tu dévoiles toute la...
En fait, pour aborder le thème de la peur, elle tombe sur un groupe d'enfants qui font une grande fête et les enfants ont très très peur d'elle et elle comprend pas parce qu'elle avait juste envie de faire la fête avec eux. Et donc pour ce livre-là, qu'est-ce que j'aurais proposé? J'aurais proposé une idée déjà. Et puis j'ai écrit, là je pense que j'ai quand même écrit le texte plutôt en premier, même si après le texte a énormément évolué. Mmh. Mais c'était vraiment, j'ai présenté le texte et puis peut-être un chemin de fer déjà, donc un découpage pour montrer ce à quoi ça pouvait ressembler. Mais maintenant, par contre, vu que j'ai déjà travaillé avec eux et qu'ils me font confiance, là pour celui qui va sortir en septembre, qui va s'appeler Tu t'appelleras Lapin, ils m'ont même pas donné de collection, ils m'ont juste dit
go.
Vas-y quoi. Raconte l'histoire que tu as envie de raconter.
Ouais. Bonne confiance quand même.
Oui, c'est vraiment cool. Après, ils accompagnent bien, donc il y a vraiment un travail qui se fait aussi. Je suis pas toute seule à faire ma popote et puis je leur présente tout ça, je leur dis publiez-les. Voilà. Moi, j'adore aussi travailler avec des éditeurs. J'adore, je trouve que c'est surtout quand on est seul parce qu'on n'a pas de personne extérieure qui peut nous dire là, on comprend plus rien ou là, tu te perds complètement. Mm-hmm. Et donc, qui est cet éditeur? J'aime beaucoup. Faire appel à eux pour avoir un peu de soutien quoi, et de savoir de voir ce qu'ils en pensent et tout. Donc j'aime vraiment beaucoup ce travail avec l'éditeur. Je pense que certains auteurs pensent peut-être que les éditeurs sont juste des imprimeurs, alors que moi c'est vraiment presque une deuxième ou une troisième personne dans le processus.
On va écouter un peu de musique, parce que j'imagine que quand tu dessines, enfin ça dépend, peut-être que tu dessines dans le silence le plus complet, ou tu as peut-être une sélection musicale. En tout cas, je t'avais demandé de choisir une musique qui te touchait. Alors je ne sais pas si c'est une musique que tu écoutes quand tu dessines, ou... Enfin voilà, tu peux peut-être m'en dire un peu plus
sur
cette chanteuse que je ne connaissais pas.
Ah bah, elle est belge en fait, je crois qu'elle est flamande. Je me demande si elle vient pas de Gand ou d'Anvers, non je pense Anvers. Et je ne sais plus comment je l'ai découverte, mais j'adore, j'écoute en boucle. Et en fait, c'est vraiment un album qui m'a accompagnée pendant plusieurs livres en fait. Généralement, c'est marrant parce que j'ai plusieurs albums qui m'accompagnent dans la création d'un livre. Et puis quand je le réécoute plusieurs mois plus tard, années plus tard, je me replonge vraiment dans ce processus de création. Et là vraiment... Ça fait un peu ça représente un peu tout mon parcours jusqu'à présent, parce que je l'ai écouté pour chaque livre en fait.
Ah oui. c'est
Chantal Agda et le titre c'est We Must Hold On.
Thank you.
Vous êtes sur Radio Rectangle pour ce podcast spécial illustration. Pourquoi est-ce qu'on t'a... Enfin, j'imagine que c'est un parcours de vie, le fait que ce soit d'abord de la jeunesse comme ça qui se dessine dans les livres ou...
Ben alors ça en fait je me pose souvent la question et en fait ça, c'est venu, enfin j'ai pas le je choisis pas d'écrire pour les enfants, de dessiner pour les enfants, c'est la façon de dont je raconte les histoires, que j'ai de raconter les histoires, ça se trouve que c'est pour les enfants quoi, mais je me dis pas surtout pour mes premiers livres je me suis pas dit allez je vais raconter aux enfants, je vais utiliser ces mots là.
Tu testes pas auprès d'un public cible de petits?
Moins, alors maintenant plus, parce que maintenant après donc Hiro, pour Hiro j'ai pas du tout, j'ai juste écrit, je me suis dit bon ben voilà, et en fait il s'avère que c'est pour les enfants mais c'est pas fait exprès. Et puis maintenant après avoir fait beaucoup, avoir rencontré beaucoup d'enfants, après avoir fait beaucoup d'ateliers dans les écoles, dans les salons du livre et tout, je trouve que c'est hyper important en fait de faire attention quand même à ça, mmh. et de voir ce que les enfants, ce qui fait réagir les enfants, et d'en rajouter en fait dans le livre. Et donc là pour Tu t'appelleras lapin, le texte est vraiment travaillé différemment, et là j'avais plus en tête que je travaillais pour la jeunesse, aussi pour un certain âge, mais par contre ma façon de dessiner, bah, c'est pour ça que je disais avant que, c'était pas, que je ne fais pas que de l'illustration jeunesse, c'est surtout ça que je fais et c'est ça qui vient le plus naturellement, mais par contre j'adore aussi faire tout un tas d'autres choses et mais un parcours de vie. En fait, quand, c'était le premier métier que je voulais faire quand j'étais petite, apparemment.
Ah oui, ouais. Tu t'en souvenais pas?
Je voulais faire des livres pour enfants. Ben non, c'est ma maman qui m'a dit, parce qu'après j'ai eu plein d'autres idées saugrenues, mais par contre, c'est toujours resté, quoi. J'ai toujours adoré dessiner, j'ai toujours adoré lire. On nous lisait, on nous racontait beaucoup d'histoires. Mon papa, il peignait. Il avait un atelier qui sentait très très fort la peinture à l'huile, que j'adorais, où j'adorais aller. Je pense que c'est... J'ai toujours été dans les livres et toujours été dans le dessin.
Et comment dessines-tu? Quels sont les outils? J'imagine que tu n'es pas l'ordinateur avec ta palette graphique. Tu disais tout à l'heure que c'était pas trop ton truc. Tu travailles avec quoi? Comment, une feuille de papier?
Avec du papier, avec tout. En fait, là, de plus en plus, je mixe toutes les techniques, mais il y a tout le temps du... En fait, je fais même pas de croquis ou de dessin préparatoire. Enfin, de croquis, si, mais pas de dessin préparatoire. Je dessine pas au crayon d'abord. Je vais tout de suite avec la peinture, souvent de l'aquarelle, mais aussi de l'acrylique, de la gouache. J'adore utiliser aussi des marqueurs, des pastels gras. Enfin, il y a vraiment... Tout se mêle comme ça et je travaille de plus en plus un peu à la manière d'un peintre, c'est-à-dire qu'avant quand je commençais une image et que l'image ne me plaisait pas, je recommençais l'image de zéro quoi. Et donc j'avais comme ça pour mes premiers livres, j'avais en fait 5 fois la même image un peu différente et donc je trouve que, enfin on me disait souvent ça perd un peu l'énergie du début. Et donc ce que je fais maintenant en fait c'est que je ne recommence quasi, vraiment c'est très très rare, je recommence presque jamais. J'ai mon papier et puis s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je vais l'effacer en rajoutant une couche de peinture par au-dessus, en rajoutant une couche de pastel. Et donc en fait si on regarde mes originaux, il y a vraiment une texture, il y a de la matière, on voit, parfois ça craquelle tellement il y a des épaisseurs, un peu je pense comme les peintres qui travaillent vraiment comme ça, couche sur couche sur couche. Et donc voilà. Je travaille tout le temps avec... d'ailleurs, j'ai souvent de la peinture sur les doigts ou dans les cheveux.
Et c'est la matière qui t'intéresse vraiment? Enfin, ouais. Il y a le contact physique avec la matière, enfin, de recouvrir comme ça te...
Bah, en fait, je me rends compte que ça m'intéresse. Mais parfois, d'ailleurs, c'est marrant qu'on en parle parce que ça me... Le fait de mettre mes mains vraiment dans la matière, ça me ment, ça me... Enfin, j'ai de plus en plus envie de ça. Et donc, j'ai commencé il y a quelques années, maintenant j'ai un peu arrêté, mais à faire de la céramique, parce que c'était vraiment ce contact avec la matière que je trouvais génial, quoi. D'avoir les mains sales et d'avoir ces mains remplies de céramique et de terre, je trouvais que c'était vraiment... Et avec le dessin, on l'a évidemment moins, parce que c'est assez propre comme technique, quoi. Même si, la peinture et tout, on peut en avoir un peu partout, mais... Ouais, je trouve que les matières sont très très belles et donc cette peinture et le fait qu'on voit à travers les couches et tout, encore une fois, je pense que ça m'attire beaucoup. Et donc j'utilise ces techniques et je le fais de plus en plus.
Et les couleurs? Qu'est-ce que ça évoque pour toi le...
En fait, encore une fois, j'ai jamais choisi de dessiner en couleurs. Enfin, moi, c'est très très coloré si vous regardez mon travail. Je fais jamais rien en noir et blanc, très très rarement. Je suis attirée énormément. Enfin, vraiment, les couleurs, pour moi, c'est... J'ai une série de peintures qui s'appelle Les Flashs, ce sont des peintures acryliques qui sont magnifiques. Donc en fait on met une couche de peinture flash et c'est très opaque, c'est très très beau, un bel aplat comme ça. Et il y a des couleurs sublimes, justement là le dessin que j'ai fini ce matin c'était avec un bleu outre-mer, mais le bleu est tellement beau. j'utilise des couleurs tout le temps. Ça, je
et ça t'épate après quand tu les vois, parce que quand on en parle, tes yeux s'illuminent, c'est comme si, oh, bleu, magnifique.
Ah ouais, ouais.
Quelque chose
vraiment,
qui te...
bah, surtout que là, j'ai dessiné une forêt et j'ai fait un grand aplat pour le ciel et c'est vibrant, quoi. C'est vraiment, c'est très très beau, je trouve.
Il y a une satisfaction à voir le...
Mais en tout cas, une satisfaction à mettre la peinture sur le papier avec ce gros pinceau à poil dur, cette espèce de brosse, et de voir ce dessin qui en fait s'illumine, même si c'est du bleu foncé, ça, ouais, ça vibre comme ça, c'est beau. Et j'utilise de plus en plus de couleurs en fait que j'aime pas spécialement. Par exemple, là, dans cette forêt, j'ai utilisé un peu du vert fluo. Pas de fin, ou du vert, ouais, jaune citron, un peu jaune verdâtre, comme ça, que je trouve pas belle. Par contre, dans le dessin, ça fonctionne, quoi.
Les fluos, ça, c'est des couleurs difficiles à l'impression, en plus.
Ouais, ton bon, éditeur va dire... Pas, là, c'est pas vraiment un vrai fluo, parce que si on veut imprimer un fluo, il faut rajouter une couleur, ouais. Etc. Mais là, c'est juste un peu un vert, ouais, un jaune verdâtre, vraiment pas beau, mais il fonctionne bien dans l'image. Donc, je suis de plus en plus... Avant, j'utilisais beaucoup de couleurs pastel, très douces... Et maintenant, je me dis, en fait, même si j'aime pas les couleurs, genre les violets, je suis pas très attirée par les violets, pourtant j'adore les mettre dans mes images parce que ça fonctionne, quoi.
Oui, et puis si narrativement aussi, la couleur exprime autre chose, ça dépasse une question de goût, j'imagine, c'est
ouais,
il faut
ouais,
raconter
voilà.
aussi.
Ouais. Ouais, c'est sûr, ouais.
Et ensuite, alors, ces images que tu fais sur papier, sur des formats, sont quoi, photographiées, scannées? Comment est-ce que fonctionne le processus après pour par rapport à ce qu'on va retrouver sur papier, en librairie?
Alors, dans l'idéal, les éditeurs font appel à des photograveurs qui... Je suis pas du tout... J'ai jamais été voir le processus, donc je sais pas comment
oui,
ça
mais
fonctionne.
Oui, mais je veux dire, il y a un travail...
Ouais, alors moi, je fournis mes originaux aux éditeurs et puis après, eux font appel à un photograveur qui reproduisent les images presque à l'identique. Et puis moi, je vais voir chez l'éditeur les épreuves pour les comparer aux originaux, en fait. Et donc, si c'est trop foncé, si le bleu tire plus vers le vert, si le rouge n'est pas assez pétant, on peut faire des ajustements pour que ce soit le plus fidèle.
Est-ce que ça doit être fidèle chaque fois pour toi, enfin,
C'est chaque fois une déception, en tout cas, de voir les livres. Enfin, une déception. Non, c'est pas...
C'est différent, quoi.
C'est très différent. Et donc, au départ, pour les premiers livres, c'était un peu presque choquant de voir la différence, parce qu'il y a des images qui ne sont pas du tout pareilles, en fait, des rendus qui ne sont pas du tout pareils, des ambiances. Moi, je travaille beaucoup avec les ambiances, avec les ombres, j'adore faire des images de nuit, donc très sombres. Et c'est très difficile à rendre à l'impression. Et donc, il faut... Maintenant, je sais que j'aurai jamais... mon original, c'est mon original, et le livre, ce qu'il y a dans le livre, voilà, ce sera jamais pareil, quoi. Et donc, je suis de moins en moins... Enfin, non. J'essaye que
tu
le travail
fait une
de...
raison.
Ouais, voilà. Un peu. En tout cas, je m'attends... Quand je vous reçois le livre, je sais que ça va pas être parfait, ou ça va pas être comme mes originaux. Et donc, c'est moins difficile, disons, de... Mais par contre, ce que j'adore aussi, c'est exposer mes originaux, comme ça...
Oui, c'est ça. Tu peux faire des expos pour que les gens puissent les voir.
Et alors, souvent, d'ailleurs, les enfants, quand je vais dans les écoles, je leur présente mes originaux, je leur explique comment je travaille, et je leur montre le livre et l'original, et ils ont tous la même réaction, genre, mais c'est dingue, non. c'est fou, vraiment, la différence peut être incroyablement... Enfin, c'est très différent, ouais.
Palette graphique, sinon. Mais bon, ouais. Un autre processus
ouais.
Bien.
Ouais, c'est pas pour moi.
Combien de livres as-tu illustré? Enfin, on va pas compter en détail, mais dans ton parcours déjà maintenant.
Ouais, je sais déjà plus, mais par contre, j'ai dit que mon premier livre c'était Hiro, et en fait, mon tout premier livre c'est une trilogie. Trois livres qui sont parus d'abord en Norvège, qui ont été publiés par un éditeur norvégien qui s'appelle Magikon. Et écrit par une Norvégienne, Elisabeth Ellen Larsen, et puis qui ont été traduits en français. Mais donc ceux-là, ce sont vraiment mes tout premiers livres.
Donc là, une collaboration pour faire une trilogie, j'imagine, qui est assez riche artistiquement, alors, puisque...
Oui, surtout que c'était mes premiers, donc pour moi, j'apprenais tout, quoi, parce que dans mes études, on n'apprend pas à faire des livres, on apprend des techniques, mais on n'apprend pas vraiment à faire des livres. Et donc là, pour moi, c'était un super accompagnement, parce que l'éditeur norvégien était... En fait, j'ai fait un Erasmus en Norvège, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des livres là-bas.
Tu parles norvégien, alors, ou...
Je baragouine et je le comprends, mais bon, ça commence à dater, là. Et donc, j'ai rencontré l'éditeur comme ça, un peu par hasard, et j'ai commencé à travailler avec lui. Et il m'a énormément aidée parce qu'il m'a presque tout appris, quoi. Comment faire, même des choses techniques. Quand on dessine, on doit dessiner toujours un peu plus grand parce qu'à l'impression, il coupe. Et donc, pour ne pas perdre des parties de l'image, il faut dessiner en dehors du cadre. Tout ça, je ne le savais pas, donc... Et il a été vraiment d'une grande aide. Et puis, travailler avec cette autrice, c'était super aussi, qui, elle, avait déjà plus d'expérience. Et donc, C'était une très chouette collaboration. Et donc j'ai fait ces trois-là, puis j'ai fait Hiro, L'ours Kintsugi avec Victoire de Changi. Et maintenant, je commence à faire des livres pour les bébés aussi. Ça s'appelle des tout cartons. Parce que j'ai un fils de 2 ans, qui a 2 ans dans 3 semaines. 2 semaines d'ailleurs.
C'est ton public là,
c'est mon public. Voilà. En fait, c'est très facile parce que c'est lui qui me dicte mon livre. Quoi. je réfléchis pas, je le regarde et je me dis, mais en fait, ce serait un super livre. Et c'est comme ça qu'il naît. Donc là, j'en ai fait deux. Enfin, non, j'en ai fait un et un autre qui va paraître en septembre, qui va s'appeler Blaireau chez Pastel.
Pour le tout tout petit, ça alors.
Pour vraiment. Enfin, là, mon fils, à 1 an et demi, il regardait Grand ours, petit ours, donc, qui est vraiment une histoire de différence entre un grand ours et un petit ours. Ça peut être un papa ou une maman et son bébé.
Qu'est-ce qui les inspire à ce stade ? Je ne me souviens plus, moi, le mien a 13 ans. Donc,
Eh bien, alors, ce qui les inspire, je ne sais pas, en tout cas, je pense que ce qui les attire, ce sont les contrastes, les couleurs, etc. Et puis moi, je trouve que ce que j'ai raconté, je pense que ça leur parle, même s'ils sont tout petits. Donc, par exemple, j'ai mis la maison de... Non, ça, c'est peut-être pas le bon exemple, mais la brosse à dents de grand ours et la brosse à dents de tout petit ours. Et donc, c'est la même, sauf qu'il y a une différence de taille pour expliquer qu'on ne partage pas les brosses à dents. Ou alors, un café pour grand ours et pas de café pour petit ours. Mm-hmm. Ou le doudou de petit ours et pas de doudou pour grand ours, quoi. Pour montrer qu'il y a des choses qu'on partage.
Quoi qu'il y a des grands ours qui ont des doudous.
Ouais,
aussi.
C'est ça. C'est ce que je me suis dit. Et puis l'éditeur m'a dit quand même.
Oui.
C'est quand même assez rare. Ouais. Et donc là, j'en fais. En fait, je fais les deux. Je fais des albums pour les plus grands. Et puis des livres inspirés par mon fils.
Et tu travailles sur ces deux formats en parallèle, puisque j'imagine qu'il faut aussi bien gagner sa vie quand même pour vivre, hein, comme tout le monde. Et donc j'imagine que tu enchaînes aussi des projets comme ça, avec en parallèle des projets plus qui vont remplir le frigo, entre guillemets.
Ouais, alors les projets qui remplissent le frigo, ce sont surtout des ateliers. Ce que j'adore faire quand même, hein, c'est pas des choses que je vais. Enfin, j'y vais pas en traînant les pieds, j'adore, mais.
Oui, c'est de la torture, si c'est ces ateliers que t'aimes pas.
Oui, surtout qu'il y en a beaucoup. Donc là, l'année passée, j'ai fait beaucoup d'ateliers dans toute la Belgique, des salons du livre, des foires du livre. C'est ça qui remplit le frigo, parce que les livres, nous, en effet, c'est pas génial. Mais par contre, moi, j'ai vraiment du mal à travailler sur deux livres en même temps. Donc si je travaille sur un album pour les plus grands, j'arrive vraiment, enfin c'est très très difficile pour moi de passer à autre chose et de faire le tout carton, le livre pour les bébés en même temps, quoi. C'est vraiment, je trouve que ça...
Mais ça distorsionne ton cerveau.
J'ai l'impression qu'il y a un peu de l'album pour les grands qui se retrouve chez les petits, et inversement, et donc je préfère vraiment faire, ne pas travailler sur deux livres en même temps, dans la mesure du possible. Parfois, à la fin d'un album, parce que ce qui est difficile dans un album, c'est vraiment de trouver l'univers, de plonger dedans et de découvrir aussi la manière de raconter aussi graphiquement. Et une fois que j'ai ça, après quelques mois de travail, quand c'est plutôt la routine de la fin, là, c'est peut-être plus facile d'en sortir et d'aller dans un autre projet, quoi. Mais au début, c'est vraiment c'est très fatigant parce que c'est vraiment tout. Je donne tout de moi dans cet album. Et donc, j'arrive pas à jongler avec d'autres projets. Par contre, sortir de mon atelier pour aller faire un atelier dans une bibliothèque, c'est autre chose et ça nourrit aussi mon travail dans mon atelier chez moi.
Comment est-ce que tu donnes du rythme dans tes histoires ? Enfin, je veux dire, est-ce que tu as des techniques pour donner du rythme ? Parce que c'est souvent un truc qui est le plus important quand on raconte une histoire. C'est comment phaser le rythme et...
Je le raconte déjà à voix haute dans mon atelier plusieurs fois, toute seule.
Ouais, c'est intéressant ça.
Parce que j'aime en effet le rythme, je le trouve très très important. Pour le premier livre, j'étais pas très très consciente de ça. Et puis maintenant, pour le Tu t'appelleras lapin, là, j'ai vraiment joué sur le rythme. Et le texte, je l'ai lu à voix haute, toute seule, des centaines et des centaines de fois pour que ça rythme. Même pas, enfin oui, vraiment, il y a une forme de... Parce que dans chaque page, il y a du rythme dans mon texte, j'espère, mais aussi, en effet, dans tout le livre, il y a un rythme. Il faut pas que ça aille trop vite, il faut pas qu'il y ait trop, il faut pas que... Moi, j'aime bien quand ça fait un peu des montagnes, donc il y a peut-être un rythme un peu soutenu, et puis après, ça se calme, et j'aime bien quand il ne se passe pas grand-chose aussi sur certaines pages, et sur certaines pages, il se passe beaucoup de choses. Et donc, en effet, c'est... Mais ça vient assez naturellement, même si, bon, je retravaille beaucoup le texte, mais c'est surtout des petites choses à chaque fois que je change. Ça peut même être un mot que je change et qui va tout changer, en fait. Mais je crois que la clé, c'est vraiment de le raconter...
Est-ce que tu joues beaucoup avec les ellipses, par exemple ? Ou c'est quelque chose qui te...
Ouais.
Qui dynamise, entre guillemets, le récit, je sais pas.
Ouais, mais c'est pas conscient, quoi. C'est vraiment toutes des choses que je fais, et puis qu'après, je remarque, peut-être, et que, du coup, je vais réutiliser. J'aime beaucoup les répétitions, enfin... Donc, ouais. Mais quand j'écris un texte pour la première fois, c'est très... Enfin, il sort de moi comme ça. Vraiment, je l'écris presque d'une traite. Et puis après, évidemment, il va se former. Mais il y a une base comme ça qui naît rapidement.
Mmh. Oui. Donc, grosse dépense d'énergie.
Ouais.
Un livre.
Ouais, vraiment, parce que c'est moi, quoi. C'est la continuité de moi. Je pense que d'ailleurs, les gens qui me connaissent personnellement me retrouvent très facilement dans les albums.
C'est vrai,
raconte.
On te dit.
C'est toi, quoi. C'est, ouais. C'est sûr, c'est toi, il n'y a pas photo.
Le futur, par exemple.
Alors, donc en septembre. Non, en août, il y a mon tout carton Blaireau qui va sortir chez Pastel. Je crois que c'est le 24 août. Donc, Pastel, c'est la branche belge de l'École des loisirs. Et le 18 septembre, c'est Tu t'appelleras Lapin chez Version Sud. Et donc, il y aura des soirées de lancement pour les deux, normalement chez Tulitu et chez Candide.
On pourra te rencontrer et discuter avec toi. Alors,
voilà,
c'est ça que tu veux dire.
Je pourrais vous faire un petit dessin. Et...
En tout cas, merci beaucoup d'être venue, Marie.
Bah, merci à toi.
C'est un plaisir. Qu'est-ce qu'on écouterait pour terminer cette émission-là? Qu'est-ce que tu aimes bien, toi? J'imagine que tu vas me dire un peu de tout, non?
Ouais, c'est la folk, j'adore la folk. Bah là, en venant, j'écoutais Peter Broderick. Je pense qu'il est ami de Chantal Agda. Je pense qu'ils ont collaboré. Et donc, il y a une chanson, il y a un album qui s'appelle Home et une chanson qui s'appelle Games.
Ah,
si
bah,
tu
on pourrait écouter ça, oui.
Voilà.
Bien sûr.
Que j'adore.
Une grande bibliothèque, discothèque de disques.
Super.
Et tu aimes pourquoi? C'est un morceau folk
C'est pas vraiment au niveau des paroles, mais même Chantal Agda dont je parlais plus tôt, c'est pas vraiment les paroles, c'est vraiment l'ambiance je trouve que c'est presque aquatique, c'est très atmosphérique. Ah sinon on pourrait écouter Cabane, qui m'inspire beaucoup.
Aussi, ouais.
Quelle chanson de Cabane, je sais pas, mais...
On peut même écouter les deux si tu veux. Hein.
Ah c'est génial.
Donc on pourrait enchaîner notre ami Peter avec le projet de Thomas, hein, je pense, Cabane.
C'est ça.
Un album folk sorti au mois de mars, juste avant le confinement. Très très beau disque folk, très léché comme ça, très calme.
Il m'a accompagné dans la réalisation de Tu t'appelleras Lapin justement.
Donc voilà, l'occasion de lui faire une petite dédicace. En tout cas, merci
Salut
beaucoup.
Salut Thomas.
En tout cas, merci beaucoup, c'était un plaisir de te recevoir et on suit tous attentivement alors.
That we call home, where we are so alone, boy, you dream that you will do like lovers always do. then we do like we used to, but something's turning wrong. Boy, you dream that you will do like people all around, but people all around, oh love, are they sad to dream? We were dreaming together, but for a while, all inside you is sad. When we were living together, home, you've never looked for more than never being alone. Boy, you dreamed that we would do like lovers always do. Here, with sadness on the walls, some dreams are turning into blue. For what we'll never do, on a way too long, on a way too long, oh love, are you lost to dream? We were dreaming together, but for a while, all inside you is sad. When we are living together, there, the place that we call home, where you never go alone, boy, you dream that you will do like lovers always do. My love, now what should we do? We dream like we used to, but it's something always blue, like people all around.
Avec le soutien de Sabam for Culture.